Le SRE, pour Site Reliability Engineer, est généralement un ingénieur software mettant à profit son expérience pour gérer l'infrastructure. Mais bien que ce rôle ait déjà fait l'objet de plusieurs publications, et je vous invite d'ailleurs à retrouver les liens dans les notes de l'épisode, son quotidien reste flou et mal défini. Tout d'abord, il est responsable de la production. Mais afin que son temps soit harmonieusement partagé entre cette tâche et ses travaux d'automatisation, il doit d'abord définir un budget d'erreur avec les développeurs. Ce budget est une sorte de contrat décrivant combien de temps une application peut être en dessous de son objectif mensuellement. Et pour définir cet objectif, bien évidemment, il faut des points de mesure précis, qui sont appelés des indicateurs. Une fois ce cadre mis en place, le SRE devrait pouvoir consacrer 50% de son temps à la production et l'autre moitié à ses tâches d'automatisation. C'est la théorie. Mais qu'en est-il réellement? Pour le savoir, j'ai le plaisir de recevoir Tony Fouchard. Tony est aujourd'hui chef de l'infrastructure chez Prévision.io, mais il a aussi occupé d'autres rôles similaires pour BlaBlaCar et Quant. Il a une riche expérience de SRE et il nous invite à partager son quotidien le temps de ce podcast. Merci à Data Essential d'aider à donner vie à ce podcast. Data Essential, votre partenaire de voyage vers le cloud. Tony, bonjour, bienvenue.
Bonjour Stéphane, ça va ?
Ça va très bien. Je suis très content de te recevoir pour discuter aujourd'hui de SRE. D'autant plus que, voilà, on parle beaucoup de DevOps et puis on dit toujours que c'est pas un job title. SRE, c'est un job title. Par contre, j'ai l'impression quand même qu'il y a une hype du SRE et que les frontières de ce que fait un SRE sont assez floues.
Tout à fait.
Alors, on va essayer de voir ensemble, justement, comme toi t'es SRE, de voir quel est ce job, en quoi il consiste et quels sont les enjeux donc d'être un SRE. Alors, est-ce que tu peux déjà nous briefer rapidement sur ce qui t'a amené à occuper cette position à Quant?
Oui. Là aujourd'hui, aujourd'hui je suis chez Prévision, mais c'est vrai que ouais, j'ai mon expérience juste passée et chez Quant. Du coup, en fait, je suis arrivé dans le monde du SRE chez BlaBlaCar en 2014. Ce qui se passait, c'est qu'on était en fait sur une stack managée par via du chef OpsCode chef, donc une stack plutôt convergente, avec des modifications apportées à la prod. Pas du tout le pattern de l'atomicité, de l'immutabilité, etc. Ce qui s'est passé, c'est que vers 2015, on a voulu migrer vers une stack complètement justement conteneurisée et aller vers tout cela. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on... On s'est posé, on s'est dit, c'est quoi le statut justement de la conteneurisation aujourd'hui, donc en 2015. On a regardé ce qui se faisait sur le marché, donc c'était principalement Docker. Et Docker avait pas mal de problèmes, donc il avait à l'époque un démon qui était un petit peu un single point of failure. Et il avait ça, il avait une très faible maturité en termes de sécurité. À côté de ça, il y avait un autre projet qui était très prometteur, qui s'appelait Rookit, et on a décidé de tout miser un peu sur ce projet. C'est comme ça qu'on a commencé à créer une stack en fait basée sur Rookit, en utilisant aussi pour l'orchestration FleetD, donc un espèce de système D réparti, distribué, orchestrateur très light pour le coup.
Cette stack-là, elle venait de CoreOS, c'est ça à l'époque.
Voilà, c'est ça, c'était du CoreOS. Donc, il commençait à faire un OS déjà qui commençait justement à aller vers les patterns de l'immutabilité, le CoreOS Linux Container. Donc, c'est aussi l'OS qu'on a choisi. Voilà, donc, on est parti là-dessus, on a misé sur RKT. Ce qui s'est passé, c'est que, enfin, tu as dû le constater ces dernières années, c'est qu'il y a eu un. Voilà, Rookit est un peu mort. Docker s'est beaucoup amélioré. Kubernetes a fait un choix un peu, enfin, complètement. raisonné d'aller vers Docker parce qu'il gagnait sa communauté, etc. Et voilà, il a développé il a aidé à développer Docker et c'est allé dans le sens de Kubernetes. Kubernetes était très jeune de mémoire en 2015. Et en fait, bah, c'est, disons fin 2017, je crois, que j'ai décidé de quitter BlaBlaCar parce que, en fait, bah, pour être très clair, l'écosystème, donc Rockit, RKT, Rockit, et comment dire, tout ce qui est autour de CoreOS, etc., c'était très bien, c'était très, sauf que il y avait beaucoup beaucoup de problèmes, on avait du mal, en fait on pouvait plus reconverger vers Kubernetes. On a essayé de le faire, je crois qu'on avait utilisé, on avait payé un petit peu Kinvolk pour essayer de travailler justement sur l'intégration de Rockit avec Kubernetes. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que, bah, ce qui s'est passé, c'est que Kubernetes a commencé à arriver en projet dans l'entreprise. Je crois qu'ils se sont plutôt orientés vers GKE. Et de mon côté, alors je m'étais un petit peu affaibli avec les années, etc. J'avais plus le courage, on va dire, de changer. Ça faisait 4 ans que je passais chez BlaBlaCar. Je pense que j'étais plus l'acteur du changement. Et c'est là que j'ai décidé de quitter BlaBlaCar et de rejoindre plutôt Quant. Voilà.
Alors, déjà pour situer, parce que de mes lectures, ce que j'ai compris, c'est que le SRE a quand même un fort profil dev. Là, tu m'expliques que c'est plus un glissement, pour ton cas personnel en tout cas, d'un rôle de sysadmin, presque, on pourrait appeler ça comme ça, parce qu'on l'utilise plus trop aujourd'hui, mais est-ce que tu as plus un background de sysadmin ou de développeur ?
En fait, juste avant cette expérience chez BlaBlaCar, c'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais j'ai commencé à travailler en 2006 pour une société qui avait été rachetée par SAP qui s'appelait Ideal. C'est là où j'ai commencé ma première expérience. Ça a dû durer peut-être 2 ans. Voilà. Et ensuite, j'ai rejoint une SS2I, puis un client, puis Ouest France Multimédia. Et en fait, j'ai été développeur pendant presque 8 années. Donc en fait, voilà, je connais les problématiques du développement. J'ai beaucoup souffert de ça et petit à petit, en évoluant vers un poste pour une société qui s'appelle Camping & Co, qui était une start-up en fait, du monde du camping, j'ai commencé à m'intéresser à l'infrastructure parce qu'il y avait des enjeux de scalabilité et j'avais un hébergeur en face de moi, dont je ne citerai pas le nom, mais qui me bloquait en fait, dans ma scalabilité, on va dire plus verticale à l'époque, donc mes challenges en vertical. Pourquoi vertical ? Parce que je connaissais moins justement les patterns horizontaux que j'ai appris plus tard, justement, tu vois, chez BlaBlaCar. Mais c'est du coup, voilà, ça m'a intéressé de glisser, on va dire, vers l'infra, parce que j'étais complètement aveugle et je voyais bien qu'il y avait un souci. Et donc, aller basculer de l'autre côté pour essayer d'aider, justement, le dev, ouais, c'était, je pense que c'était un challenge intéressant.
Alors, de mon expérience, encore une fois, entre les devs et les gens de l'infra, on n'a souvent pas le même vocabulaire, on comprend pas les mêmes choses de la même manière, parce qu'on n'est pas confronté au même problème. Est-ce que ça t'a posé problème dans les premiers temps de basculer du coup dans le monde de l'infra ?
Ça m'a posé problème parce que j'avais pas ces connaissances de ce qui est important en fait sur un infra. Notamment la sécurité, les upgrades d'OS, les upgrades d'applications. C'est vrai que quand on est dev, on a quelque chose de stable, on l'a testé, ça fonctionne. On s'intéresse moins à qu'est-ce qui va faire que demain, mon application, elle est plus viable et elle est même dangereuse pour l'entreprise, en fait. Pour sa pérennité et sa sécurité, enfin, et même l'intégrité des données du client final. C'est sur ces problématiques que j'ai dû travailler tout au début. Pareil sur la création de composants, leur fiabilité et aller vers leur mise en production. C'est-à-dire que là où quand on est dev, souvent on développe quelque chose de from scratch et on ne pense pas forcément, alors avec l'expérience, avec un produit bien mature, on apprend à le faire évoluer, c'est ce qu'on voit avec les API qui évoluent, etc. Mais voilà, la gestion des transitions, les API versionnés, etc. Et c'est vrai que dans ce qu'on appellera le SRE, c'est vrai qu'on met des nouveaux composants en place et il faut les tester, ils ont un vrai suivi et il y a des patterns qu'on doit mettre en place que c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué avec le dev. Ouais. Typiquement, ça va être tu vois, tout ce qui est graceful shutdown, ramp up quand tu mets un élément en fait dans une infra. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu le scope de ta mission en tant que SRE au quotidien ?
Alors, le scope, ça va être différents enjeux, donc la disponibilité, À côté de la disponibilité, donc cette disponibilité, il faut savoir la mesurer pour la garantir. Donc c'est là où on doit jouer le jeu de collecter des indicateurs, donc ce que j'appellerais des service level indicators. Alors ça vient du jargon de Google avec leur site, avec leur site Reliability Engineering, leur fameux ouvrage. Ces indicateurs, c'est un peu comme des KPI. Et on va les transformer, enfin on va les analyser et on va définir des service level objectives. Donc, en général, ça se définit avec le business parce que il y a un petit peu de, enfin il faut qualifier c'est quoi ça, la mesure de sa disponibilité et ce qu'on va garantir, on peut l'extraire justement de ses objectifs. Enfin, on peut le définir à partir de ses objectifs fixés. Donc il y a ça. Il y a du coup la métrologie, la collecte de données pour savoir comment se comporte un peu tout le système. Donc ça, c'est un élément essentiel parce que, en fait, typiquement, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on construit quelque chose qui n'aura jamais de défaut. En fait, c'est toujours imprévisible, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais quand ça se passe, il faut savoir apprendre. Pour apprendre et pour pouvoir justement faire de la root cause analysis, il faut pouvoir voir cette métrologie, donc analyser ces données, ces métriques, souvent des time series poussées, avec des outils tels que Prometheus, ou des choses un peu plus macroscopiques telles que Thanos ou Cortex, pour du long-term storage time series. Et de ces éléments, on va pouvoir plugger des outils d'alerte, et c'est là où il faut savoir définir c'est quoi une alerte. On n'a pas envie d'être réveillé pour rien quand on fait de l'astreinte, donc il y a tout ça à mettre en place. Donc ça fait partie du jeu. Il y a les tests, il y a le GitOps aussi à mettre en place, à mettre en œuvre pour arriver justement à des choses beaucoup plus automatisées. Donc ça fait partie de notre métier, mais tout en garantissant toujours ce niveau de disponibilité. Donc il y a un peu tout ça. Je pense que j'en ai encore beaucoup.
En même temps, bon, c'est une vue d'ensemble.
Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, le livre ou les ouvrages qui ont été publiés par Google sur le métier de SRE et sur eux, comment ils l'ont vécu et comment ils essayent de l'enseigner, ça t'aide dans ton travail?
Ça m'aide un peu, oui, parce que je t'ai dit, c'est un peu comme une méthode que j'essaie d'appliquer, notamment sur les métriques, comment je vais les présenter même dans mes dash. C'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte d'avoir du throughput, mesurer un taux de... essayer d'avoir mon point de rupture, c'est-à-dire savoir c'est quoi le maximum que je peux avoir justement au throughput sur un élément. C'est pas facile, ça voudrait dire que tout est bien ficelé, tout est bien compartimenté, mais on sait que c'est très compliqué d'avoir ça. Mais donc on essaie d'avoir le point de rupture en mesurant en ayant le maximum de la métrique possible et versus je sais plus comment, c'est la saturation, voilà. je cherchais le mot. Donc la saturation, on essaie de mesurer ça, le nombre d'erreurs et la latence à la fois sur des réponses qui seraient bonnes versus des réponses en erreur. Donc je pense surtout à des services exposés en HTTP, HTTPS. J'ai oublié ta question, je me suis perdu.
L'idée c'était de se dire, est-ce que tu trouves des matériaux qui peuvent t'aider dans ton quotidien au travers du livre ou des ouvrages publiés par Google?
Oui, en fait, ça aide, mais c'est vrai que, tu vois, on parlait de Kubernetes, mais l'intérêt, en fait, de la solution, c'est qu'elle t'apporte vraiment déjà pas mal de leur philosophie. D'ailleurs, quand on fait un peu les deux en parallèle, on s'y retrouve, parce que tu retrouves des notions comme les pod budget, c'est quoi, pod budget de policy, non, je sais plus.
C'est pod disruption.
Disruption budget. Voilà. pod disruption budget. Donc tu vas retrouver, leur concept où ils définissent clairement que si ça va mal, faut définir des budgets. Alors là, c'est plus des budgets sur ce que tu peux enlever, mettre dans un pool de services. Mais c'est vrai que cette philosophie, tu te dis que c'est vraiment ta North Star quand tu vas mettre à disposition un service aux devs, c'est que tu vas te dire, demain, s'il y a un budget d'erreur qui est dépassé, il faudrait essayer de throttler les mises en prod, par exemple, pour regagner en fiabilité. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai pas priorisé pour y arriver. Donc, c'est un peu, ce que je te disais, vraiment North Star. On sait à peu près ce qu'il faut faire. on sait où on doit aller, mais voilà, il faut prioriser, voilà. Il y a des combats à mener pour y arriver.
J'imagine. Alors, tu as évoqué l'erreur budget. C'est un point qui m'a semblé important parce que d'après Google, donc c'est comme ça qu'ils définissent la communication entre les développeurs et les personnes qui s'occupent du run, donc les SRE. Comment s'organisent ces discussions? Est-ce que ça communique bien aujourd'hui entre développeurs et SRE?
Un peu partout où tu vas, il y a souvent un peu des conflits parce que, en fait, il y a peu de confiance. Tu as souvent les devs qui ont leur roadmap, c'est très organisationnel, organisé en fait. Donc les scrums, etc. Tu as une volonté en fait d'inclure un peu la partie infra dans ces sprints. Voilà. Et c'est très compliqué en fait pour nous parce que justement, tu le disais tout à l'heure, mais on a des enjeux de sécurité, on a des enjeux de fiabilité qui parfois sont primordiales, non moins visibles. Et en fait, nos combats, ils sont amenés ici et ça crée un peu aussi de la friction. Parce que si tu... Enfin, ça peut créer de la friction parce qu'en général, tu vas quand même privilégier un peu ces axes-là. Et à côté de ça, les développeurs, ils ont besoin de beaucoup d'autonomie. Donc, c'est des projets à mettre en œuvre. Donc, travailler la développeur autonomie. Ça, tu y arrives typiquement chez Quant, c'est ce qu'on avait travaillé. Et ça se fait en essayant de créer une espèce de light multitenancy dans un Kubernetes. Donc, typiquement, c'est ce que j'avais réussi à faire pour essayer de les laisser un peu autonomes. Côté de ça, le contrôle que tu vas pouvoir faire en fait sur leurs actions. C'est un peu complexe, donc tu peux t'appuyer sur des outils tels que OPA, OPA, Open Policy Agent. Donc tu vas du coup sur les webhooks d'admission ou de validation, ou des mutating validation contre, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, les hooks d'admission. En fait, tu vas pouvoir contrôler un peu, faire un peu d'introspection sur ce que les gens veulent soumettre à l'API serveur. Et refuser en conséquence, selon ta policy, typiquement aller tirer des images du Docker Hub. Toi, parfois, un dev, il va pas comprendre qu'en allant tirer une image, il sait pas qui l'a buildé, il sait pas ce qui a été mis dedans, il connaît pas les binaires qui sont dedans. Donc, du coup, tu peux t'outiller et te prémunir de ça en forçant l'utilisation d'une registrie interne propre à l'entreprise avec des builds d'images que tu trustes. Donc, il y a ça. Et en fait, comment tu vas arriver à créer une relation un petit peu meilleure, ça va être en jouant sur la transparence, expliquer les enjeux en fait de la team, mettre en exergue le gain en termes de souplesse en fait escompté, apporté, penser le bénéfice utilisateur aussi des solutions que tu mets en place. En cas d'incident, faut que tu communiques, donc faire des requests for outage, donc des RFO, post-mortem, ça dépend comment on les appelle. Faire de la vraie root cause analysis, donc essayer de faire en sorte que les incidents ne se reproduisent pas pour que justement ils te croient, leur donner accès à tes métriques. Donc même si c'est du read-only, tu vas donner l'accès à la métrologie complète du cluster. Pourquoi pas les logs aussi, donner des accès. Donc typiquement, si tu fais du GKE, si tu as Stackdriver, enfin, qui a été renommé, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais en bref, eux, s'ils peuvent le voir déjà, s'il y a un souci, tu vois. Dans ce que tu as mis en exergue, s'ils y croient pas, ils peuvent le vérifier. Donc, fournir les outils pour pouvoir vérifier. Toi, tu dois aussi leur fournir une certaine autonomie sur leurs environnements. Tu peux maîtriser tout ça avec des outils tels que les RBAC. Donc, souvent, l'authentification est pluguée donc à un IDP. Les gens s'authentifient. Et après, tu peux jouer sur, par exemple, la récupération des groupes pour c'était des RBAC pour les laisser faire un certain nombre de choses et gagner, voilà, les laisser gagner en autonomie. Alors ça, c'est si tu n'as pas réussi à travailler fortement en fait ta CI, CD. Et souvent, on sait que ça vient un peu après, hein, malheureusement. C'est vrai que moi, c'est souvent le sujet qui arrive en dernier, finalement. Peut-être à tort, hein, je t'avoue.
Tu parles beaucoup d'autonomie. Alors l'autonomie, ça va aussi de ce que j'ai pu constater avec quand même un shift left. C'est-à-dire qu'on parle de sécurité, par exemple. C'est qu'un exemple. Si un développeur voit que son pod est jamais accepté parce que il n'est pas aligné avec la politique de sécurité, au bout d'un moment, ça peut le lasser et il peut avoir envie faire du shadow IT quelque part ou des choses comme ça. Donc comment expliquer correctement dans ton rôle les enjeux de sécurité que tu peux avoir toi et les faire accepter aux équipes de développement?
Là, c'est ouais, non, franchement, c'est assez complexe. Leur faire comprendre, non, je pense que tu vois, tu es obligé d'avoir un. Je ne sais pas comment faire en fait sans avoir un léger niveau de friction. Ça peut être que l'échange, la sensibilisation et justement essayer de leur apporter cette culture, tu vois, un peu les contaminer, on va dire, pour qu'ils aillent un peu dans ton sens. Et leur faire comprendre que le niveau de professionnalisme, il passe aussi par là. Et je pense que s'ils sont passionnés, il y a moyen que ça marche, en fait, ça marche juste. Et à part ça, en fait, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de volonté d'échanger sur ces problématiques et pourquoi on essaie de les résoudre, alors parfois, malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que tu vas te retrouver dans une compromission d'un système ou quelque chose comme ça. Et là, on va chercher pas des coupables, mais après, on sait qu'on essaie de faire du blameless, donc on masquera peut-être les responsabilités, mais il y aura un échange. Chacun retrouvera ses propres responsabilités dans l'incident et il y aura un échange, il y aura une volonté sans doute, si les gens sont bienveillants, d'améliorer le système. Voilà, donc, et sa sécurité en général. Donc je pense qu'il y a moyen, mais ça passe vraiment par de l'échange. Je pense qu'on ne peut pas rester sans discuter. Et je comprends que ça puisse créer une certaine friction entre les deux équipes. Voilà.
Comme vous le savez, créer un podcast est aussi passionnant qu'éprouvant. Mais c'est une superbe aventure. Ce podcast est passé en un rien de temps d'une folle idée qui me trottait dans la tête à quelque chose de bien concret. Maintenant, je cherche continuellement à l'améliorer. Afin de vous permettre de m'aider à rendre ce podcast encore meilleur, j'ai créé ma page Patreon. J'y partage les coulisses du podcast, les travaux que j'ai en cours, mais aussi un accès anticipé aux épisodes et des épisodes bonus. Soutenez ce podcast avec Patreon sur www.patreon.com/electromonkeys. Tu as parlé aussi d'aide. Alors, est-ce que c'est une aide réciproque? Tu les aides à mieux faire tourner leurs applications? Et de leur côté, est-ce que eux t'aident aussi justement dans certains aspects qui pourraient être plus complexes à ton niveau, peut-être, d'apporter une certaine aide ou dans la résolution d'incidents ou que sais-je.
C'est vrai que souvent dans un système, tu as une application développée, elle va être livrée. Le dev ne sait pas toujours comment ça va se passer après, comment les requêtes vont arriver. Il y a beaucoup de concepts typiquement apportés par un orchestrateur où il va y avoir de la communication via des signaux pour justement parler de graceful shutdown, mais il faut pouvoir interpréter les signaux. Donc, il faut que le développeur soit conscient qu'il faut que la propagation des signaux se fasse bien jusqu'à son processus. Et quand il reçoit un signal, il puisse le traiter en conséquence, typiquement pour arrêter de listen sur une socket et traiter les requêtes courantes et s'arrêter. Du coup, tu as des choses comme ça que nous, on peut leur apporter. Après, il y a le comportement général de leur application, donc les échanges entre l'application. Tu as tout ce qui est politique de retry, où ça peut être plus maléfique que bénéfique. Du coup, c'est de la sensibilisation, expliquer que il y a des retry possibles en exponential back-off. Donc, il y a des possibilités. Donc, sensibiliser, dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer. Après, il y a tout ce qui est service mesh et tout ça pour arriver à traiter ça un peu en sidecar de l'application. Donc, il y a des outils, il y a leur mise en œuvre, il y a choisir les bons outils aussi. Et tu me disais, comment on les aide?
Ouais.
Comment on les aide au quotidien? Je pense que aussi, tu vois, on parlait d'autonomie, mais c'est pas forcément que l'autonomie, mais c'est aussi mettre à disposition des moyens pour eux d'avoir un peu de visu sur leur produit. Donc, ça va être soit mettre de l'APM, Application Performance Monitoring, pour qu'ils voient un peu comment se comporte en production leur application. Si on n'a pas ça et que ça coûte cher, on peut mettre un peu de, par exemple, du StatsD, tu vois, et essayer de remonter des choses avec du. Enfin, typiquement, tu prends un télégraphe, tu le mets en sidecar et tu fais en sorte que les gens utilisent une lib qui fait du docstatsd. Donc, c'est du statsd un peu avancé où tu peux mettre des tags pour du Prometheus. Et du coup, ça leur permet vraiment de voir un peu comment se comporte leur appli. Et ils voient, en fait, bah, avec le throughput, par exemple, la dégradation en termes de latence. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut les aider. Eux, nous aider. Alors, en fait, nous aider, je sais. Il y a forcément ils ont forcément une manière de m'aider. C'est peut-être par l'hétérogénéité de leur, bah, des technologies qu'ils utilisent, où chaque technologie va peut-être avoir, bah, ses implications. Là, j'ai pas d'exemple en tête, hein, pour être honnête. Mais il y a forcément quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir leur niveau de connaissance parfois. Tu vois, leur niveau de maturité en termes de pattern, parce qu'on voit beaucoup de gens. Il y a des gens y a des gens qui ont 15, 20 ans d'expérience, donc ils connaissent certaines problématiques, mais souvent, tu as des juniors qui peuvent arriver, ils connaissent moins justement ces notions, pourquoi l'application doit être dispo, pourquoi elle doit, tu vois, typiquement, faire en sorte qu'une application soit réplicable en temps d'exemplaire, ça peut être déjà structurel, en fait. Enfin, ça peut déjà orienter en fait la stratégie de développement. Tu as la communication entre ces applications aussi, où du coup, les gens vont peut-être communiquer en synchrone, asynchrone, et là, on doit les aiguiller pour leur dire, bah, tu ferais mieux de faire de la synchrone sur telle partie. Donc, ça peut aller vers de l'architecture un peu applicative. Voilà.
Ok, tu as mentionné pas mal de fois Kubernetes ou en tout cas des patterns qu'on retrouve dans Kubernetes comme le sidecar. Est-ce qu'aujourd'hui, sur un poste de SRE où on cherche à faire pas mal d'automatisation, Kubernetes c'est quelque chose qui apporte vraiment de la valeur?
Alors, je te disais que j'avais travaillé chez BlaBlaCar et au début, j'étais pas, voilà, je construisais des briques, des composants, genre je mettais à disposition des stacks de cache pour faire du caching sur des calls pour de la géoloc, etc. Donc, géocoding, reverse géocoding, des stacks Apache Traffic Server, je t'ai dit, des load balancers, etc. Et en fait, et je t'ai dit aussi que je m'étais intéressé, bah, du coup, j'ai beaucoup travaillé, ça, je crois que je ne l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup travaillé sur justement la stratégie de déploiement de l'application, typiquement une application PHP. Ce qui se passait à l'époque, c'est que il fallait qu'elle rentre correctement dans un pool et qu'elle ressorte d'un pool. J'avais des varnish, donc des reverse proxy varnish devant. En fait, ce que je codais, c'était toute une mécanique pour dire voilà, faire des calls à l'appli pour lui dire, eh bah, là, tu vas mettre une clé dans ton APCU, tu vas commencer à envoyer voilà, un code d'erreur sur ton health check varnish. Du coup, varnish, il va te considérer comme unhealthy et il va te sortir du pool. Donc, en fait, c'est un peu de la haute couture. On essaie de créer des choses et en fait, voilà. Et quand tu découvres en fait ce que fait Kubernetes, bah, il fait tout ça et c'est built-in et c'est de manière générique. Et tu as ça, en fait, tu as juste à te mettre dans ce framework, respecter ces concepts et tout est inbox, quoi. Et voilà, du coup, en fait, c'est triste de se priver de ça. À côté de ça, il y a beaucoup, beaucoup d'inconvénients à Kubernetes, hein. Mais voilà. Mais là, il y a vraiment un bénéfice qu'on peut pas, voilà, qu'on peut pas ignorer.
Donc pour toi, Kube, c'est un framework d'infrastructure.
Voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, ça reste un framework d'infrastructure.
Est-ce que tu es souvent amené à créer du code pour l'automatisation?
Alors, c'est très rare. En fait, j'essaie de ne pas le faire. Tu vois, je te parlais de webhook d'admission, c'est pour ça que je suis allé vers OPA là. Du coup, tu écris des règles en Rego. J'essaie toujours d'éviter de coder. Ça, c'est valable pour ça, pour les policies, là. Mais c'est aussi valable pour des solutions d'autorémédiation. J'ai vu devoir, typiquement, j'utilisais Rook depuis la version 0.7.0, je l'ai fait migrer chez Quant jusqu'à la version 1.0, 1.1 peut-être même. Et du coup, je sais qu'il se passait des fois où tu pouvais avoir des composants qui étaient complètement stuck. Je crois que c'était peut-être les plugins CSI. Et du coup, il faut pouvoir capter ça et remédier le temps qu'il y a voilà, le temps que tu fasses ta remontée d'issue, qu'elle soit mergée upstream et qu'il y ait une release. Bah, typiquement, j'utilisais Argo, par exemple, Argo Events pour faire de l'autorémédiation. Ça m'est arrivé, bah, typiquement pour Roux, de coder des petites applications en Golang. Donc, ça va être utiliser une cluster config en Golang pour, voilà, pour récupérer les infos du SA provided et voilà, pouvoir avoir le niveau de creds suffisant pour faire les calls à API Server en ayant cété les bons airbags pour attaquer les ressources qu'on veut, voilà, auxquelles on s'intéresse. Donc, c'est très ponctuel, c'est rare et j'évite de le faire dans la mesure du possible.
Ok.
C'est rare en fait qu'il n'y ait pas quelque chose qui existe. Typiquement, là, en ce moment, j'ai des problèmes avec le séquençage. Alors, dans un cluster GKE, je vais avoir des problématiques de séquençage de démarrage de pod où, quand ça autoscale, j'ai un job qui arrive et parfois il peut avoir des besoins tels que, tu vois, sur du GKE, il va avoir besoin, un Mongo va avoir besoin d'XFS. Sauf qu'XFS, ce n'est pas sur une distrib Ubuntu GKE de base. Il faut installer un paquet, donc tu as un startup script à lancer. Donc tu lances un daemon set qui fait un NS Hunter sur son père, enfin sur son parent pour faire une install. Et ben, tu vas avoir tous ces jobs qui vont être dépendants du bon déroulement de tout ça. Tu peux avoir aussi du Cilium. Je sais que maintenant c'est built-in, mais avant j'utilisais Cilium sans que ce soit built-in GKE. Donc là, il fallait que le datapath soit prêt. Ça m'a posé d'ailleurs des gros soucis. Et c'est là où tu vas essayer de chercher une solution. Et j'ai plus le projet en tête, mais il y a un projet qui permet de s'intéresser en fait à un certain nombre de démons, leur readiness, et qui va te permettre de teinter ou untent un nœud en fonction de voilà que t'as certes un certain nombre de daemon sets sont prêts. Donc c'est typiquement le genre d'outils, tu vois, que je cherche. Et si ça n'existe pas, effectivement, on peut songer à coder.
Alors, un SRE, ça veut dire qu'il s'accompagne d'une bonne boîte à outils. Aujourd'hui, comment tu vois le paysage proposé par la CNCF? C'est quelque chose qui est beaucoup plus mature qu'au début où tu as commencé, plus riche peut-être aussi.
Mm-hmm.
Est-ce que ça t'aide d'une grande aide, justement, au quotidien, de te dire, si je cherche quelque chose, aujourd'hui, j'ai cette fondation qui est là, et je peux avoir une certaine confiance dans ce qu'ils ont sous leur parapluie.
Tout à fait. Typiquement, là, je pensais à, tu sais, tout ce qui est, bah, je te parlais d'APM tout à l'heure, mais souvent, c'est vrai que les outils sont souvent propriétaires. Et là, on va s'intéresser, par exemple, à OpenTelemetry. Et si on va chez CNCF, ce qui se passe, c'est qu'on va voir vite qu'il y a tout ce qui est Jaeger, etc., qui doivent être, je crois qu'ils sont, justement, c'est un projet certifié CNCF. Donc c'est un petit peu un gage de qualité, et je l'ai vu justement avec Rook qui était entré chez eux en projet certifié, et je pense que j'ai clairement vu un gain de bon, après il était en c'est vrai qu'en version 0.7 on n'attendait pas à ce que ce soit très stable, mais ça a vraiment bien évolué quoi. Donc oui, comme tu dis, c'est un gage de qualité, et du coup je continue de m'y référer pour voir, voilà, pour m'intéresser au projet. Après, c'est compliqué parce que, tu vois, typiquement, tu vois Cortex et Thanos qui étaient tous les deux approuvés par la CNCF. Et du coup, si tu dois faire un choix, bah, tu ne sais pas forcément où aller. Tu vas me dire, tu peux tester, mais c'est ça un coup. Et voilà. On tâte un peu, tu vois, avant de se trouver. Voilà, c'est normal.
J'imagine que oui. Au début, on avait peut-être le choix entre, voilà, on allait voir un outil de, peu importe, de monitoring, et on avait Prometheus et on savait qu'on pouvait aller là.
Mm-hmm.
Maintenant, c'est vrai que ça s'étend, que des projets ont une communauté, qui sont fiables, et du coup, ça laisse un choix plus grand et peut-être c'est moins facile de s'orienter.
Mm-hmm.
On aurait préféré qu'ils aient une opinion sur le projet à nous proposer.
Voilà, bah en fait, oui, c'est ça principalement, tu vois, je te parlais de compte, mais quand il a fallu monter un cluster from scratch avec les problématiques qu'il y avait là-bas, c'est-à-dire problématiques, alors, enjeux de sécurité, de gouvernance, souveraineté, etc., ils n'étaient pas prêts à consommer chez un cloud provider, donc il fallait monter un Kubernetes, tu vois, un peu soi-même, et là, tu arrives, tu veux monter un Kubernetes, déjà, tu as des machines physiques, il faut faire des choix. Il faut que tu choisisses déjà un plugin sur ta CNI. C'est déjà compliqué. Tu te dis, mince, j'ai Flannel, j'ai Multus en méta-plugin. Enfin, t'en as une palanquée, quoi, et tu sais pas où aller. Et là, tu dois dire j'ai besoin de quoi? C'est quoi mon besoin? Et typiquement, là, bah, on voulait faire un truc très scalable. On savait que si on partait sur un calico, sur du L2, on allait faire du full mesh, que sans route réflecteur, ça risquait de pas scaler à beaucoup de nœuds. Donc là, on se dit, il faut monter un L3. Donc on se dit, calico, c'est peut-être la solution, mais il faut faire du peering, tu vois, avec une AS interne par rack. Donc on part là-dessus. Du coup, bah, il faut choisir quelque chose qui va te permettre de le faire. Donc tu vas te dire, bah ok, calico, il a l'air de le faire. Et c'est ce que, en fait, on est parti là-dessus. On s'est dit, ça va faire du L3. On a monté un L3 grâce à lui. Il faut que tu aies un outil qui permet de provisionner les machines et qui te permet de le faire. Et typiquement, il y a quasiment pas de doc. Mais en fait, Calico permet de le faire. Il te suffit de setter les AS de peering en fait, dans l'inventaire et de le faire par nœud. Tu peux avoir du coup voilà, une courbe par nœud. Tu as ça. Donc, choisir le bon plugin pour faire ça. Mais il y a un moment, tu te dis, mais ouais, mais il faut que je sorte sur Internet. Je vais faire comment? Et en fait, bah, il faut que typiquement Calico, il te permet de consommer des IP flottantes. Et ça, faut le savoir, et tu peux le faire via des annotations. Tu vas avoir besoin de faire du storage. Comment tu fais du storage? Voilà, c'est facile parce que en fait, t'as que Roux qui te permet de le faire. Voilà, il te permet de le faire dans Kubernetes. Et c'est pas mal parce que c'est vrai que gérer un cluster Ceph, c'est compliqué.
T'as parlé justement de la gestion de ton temps et que il y a des tâches qui prennent beaucoup de temps. Il y a chez les SRE cette volonté d'automatiser et de pas faire de tâches répétitives. Alors comment ça se partage ton temps entre la gestion d'une production qui doit tourner, donc t'assurer que la livraison d'applications est fonctionnelle et opérationnelle, et la recherche peut-être de nouveaux éléments qui peuvent te permettre d'automatiser plus ou de gagner du temps ou de gagner en stabilité.
Alors c'est un sujet, ouais, c'est tu mets le doigt sur un sujet très sensible. Moi j'ai tendance à penser qu'on doit faire en sorte d'allouer un certain nombre de, tu vois, c'est comme un pourcentage que tu bloques. Bah, tu retrouves ça aussi, je crois, dans le livre du SRE, c'est l'ATOIL, tu vois, le truc qui revient souvent. C'est, bah, du coup, on sait que dans notre métier, on a ce que je qualifierais de run dev. C'est-à-dire la capacité à être là à disposition du développeur. Tu as la partie prod dont tu parlais, qui va être, bah, du coup, s'occuper des dysfonctionnements de la plateforme courant. Et tu as la partie un peu roadmap. Alors, la partie roadmap, c'est ça, c'est ce qu'on inclut dans le choix des technologies de demain et de comment on va les mettre en œuvre et les mettre à disposition. Voilà. Et je pense qu'à part mettre un pourcentage pour y arriver, à condition d'avoir des ressources humaines suffisantes pour arriver à dégager ce pourcentage. Sinon, c'est complexe. Et typiquement, c'est ce que, bah, là, depuis 3 mois, j'ai entamé une nouvelle aventure. Et typiquement, c'est ce que je vis au quotidien. Il faut délivrer, mais en même temps, il faut voir pour demain, et c'est très compliqué.
Dans le pourcentage, on revient justement sur le concept de budget d'erreur. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à stabiliser, à dire il faut que je passe 20%, 40, 50% de mon temps à automatiser et le reste à m'occuper de la dev, ou c'est encore très fluctuant et c'est pas encore très stable?
C'est très fluctuant et ça dépend, comme on disait, tu vois, de la maturité du produit. Et typiquement, quand tu arrives dans une startup, ton produit n'est pas forcément mature. Tu vas avoir à la fois au niveau de l'infra et du dev, bah, tous les patterns d'erreurs possibles, tu les vois en fait, qui sont faits. Et ça, c'est pas, tu vois, tu peux pas blâmer une entreprise. En fait, c'est le cycle normal de développement de l'entreprise. Et ce qui est compliqué, c'est que, bah, une organisation où tu as 50 à 100 développeurs, versus une organisation où ils sont 10, eh ben, tu ne seras pas au même niveau de maturité et tu ne pourras pas utiliser les mêmes outils et passer le même temps en fait, à traiter des sujets. Surtout si tu as travaillé dans des entreprises où il y a le processus de qualité qui est très rigide, tu dois essayer d'oublier ça pour justement repartir sur quelque chose de plus léger. Après, il n'y a pas trop de compromis sur la sécu. Tu vois, typiquement, là, je suis parti sur une aventure. Ce qui avait été fait, le choix qui avait été fait initial, c'était de faire du GKE en mode public. Moi, j'arrive là-dessus, je me dis, il n'y a pas de compromis, si on repart, si on fait du GKE, ce sera un cluster privé. On va passer en VPC. Voilà, il faut que les flux soient isolés, il faut qu'il y ait trois zones. Donc voilà, une zone d'entrée, la zone du cluster, une zone même de sortie. Et ça, c'est des choses non négociables. Et voilà.
Si vous avez adoré un épisode ou au contraire qu'il n'était pas du tout à votre goût, ça m'intéresse. Venez me faire part de vos avis sur Twitter, @K8Monkeys. Je souhaite que ce podcast soit avant tout le vôtre. Et il me tient à cœur de l'améliorer continuellement grâce à vos retours.
Electro Monkeys.
Les nouveaux concepts comme Kubernetes, ça a été vendu comme amenant énormément d'automatisation. Pareil pour les clusters qui sont managed, par exemple avec GKE.
Oui.
Au niveau du management, est-ce que la perception est bonne en se disant « Oui, mais d'un côté, on dit qu'on automatise tout, et pourtant, nos SRE, ils nous demandent du temps parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas de manière automatique.
Mm. »
Est-ce que tu arrives bien à faire passer le message que bah, faire tourner l'application, c'est une chose, mais tout ce que tu as apporté à côté, ça te demande du temps?
Oui, alors, c'est vrai que tu vas avoir les grosses DSI, etc. Ils vont s'orienter vers Kubernetes parce que c'est l'outil magique qui va résoudre tous leurs problèmes. En vrai, c'est très compliqué. Tu le vois avec... Tu vois, par exemple, si on parle d'OpenShift, de Red Hat, c'est un outil qui a une très grosse valeur ajoutée pour le dev. Par contre, si on parle d'infra, il ne va pas te dire comment tu montes, tu setup ton réseau. Il ne va pas te dire comment tu ingresses, comment tu sors. Est-ce que tu le fais de manière performante ou pas? Est-ce que tu as des NAT instances? Est-ce que tu montes une IP directement ou tu fais une annonce BGP depuis ton nœud pour sortir et du coup, tu as quelque chose de plutôt noble? Voilà, donc en fait, tu es obligé à un moment de dire bah, par rapport à vos enjeux. Moi, je l'ai vu sur du crawl, par exemple. Monter un cluster sur de l'OpenStack chez OVH, bah, tu te retrouves, si tu utilises leur NAT instance, tu te retrouves à des débits de sortie à 200 mégabits, tu vois. C'est pas possible, quoi. Ça répond pas à tes enjeux. Donc là, dans ce cas-là, eux, ils te mettent à disposition un moyen de monter une IP sur une instance. Bah, tu le fais, mais il faut que tu puisses amener cette IP à ton workload. Pour l'amener, bah, on parlait de meta-plugin comme Multus tout à l'heure, bah, tu vas pouvoir utiliser ce genre d'outils. Mais tout ça, en fait, c'est pas magique. Tu es obligé de travailler pour que ça marche. Et tu n'as vraiment pas... Et en plus, tu n'as pas un Kubernetes. Kubernetes, tu n'as pas un mode de déploiement qui est universel. Et c'est que, voilà, à chaque déploiement, c'est de la haute couture. Donc, lui, c'est juste, c'est vraiment le cœur sans intelligence. Et tout ce qu'il y a autour, c'est ça, c'est ça qui en fait quelque chose d'exploitable. Et la qualité des outils autour. Donc typiquement, chaque responsabilité, c'est pour ça ils ont bien trouvé la manière de le faire, c'est-à-dire qu'ils sont complètement agnostiques de c'est quoi ton choix derrière, quoi. Comment tu fais le réseau, qui y a derrière pour répondre aux demandes sur des PVC, donc qui va provisionner ces PVC, et c'est là où c'est fort, quoi. C'est toutes ces interfaces. Et voilà. Et du coup, ça, tu es obligé de sensibiliser. Il n'y a pas le choix, en fait, parce que même tes pipelines de le soft, il est construit, comment tu le déploies. Après, tu pourrais me parler de plateformes de PaaS comme Clever Cloud ou j'en passe. Mais par rapport aux enjeux, par rapport au throughput attendu et tout ça, c'est rare que tu aies vraiment une silver bullet, une solution qui réponde à tous tes besoins de manière universelle. Et enfin, moi, c'est quelque chose dont je suis convaincu et il n'y a personne qui a réussi à me prouver que tout était plus simple. Bon, peut-être le cloud, tu vois, où forcément s'abstraire des machines, c'est déjà résoudre beaucoup de problématiques et mettre une API devant. C'est quelque chose d'ultra bénéfique. Et si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Je sais qu'il y a des solutions comme Digital Reaper et tout, etc., qui vont te permettre de faire le bootstrap des machines. Tu vois, par exemple, du boot IPXE, etc. Tu as une machine, elle est en état off, tu l'allumes. Qu'est-ce qui va se passer? Comment elle va installer sa propre image? Comment, en la redémarrant, elle ne va pas se réinstaller entièrement? Tu vois, les patterns d'atomicité, etc. Chaque déploiement, c'est beaucoup d'enjeux. C'est typiquement la stratégie d'une entreprise qui va être on monte un PaaS. Est-ce que je prends du cloud? Est-ce que je prends une offre managée? Si tu prends une offre managée, demain, comment tu, si tu veux être multicloud, parce que tes clients veulent que tu sois multicloud, ils veulent dans telle région, de, voilà, dans telle région particulière où malheureusement, tu n'as que tel cloud provider, il faut, enfin, tu vois, tu as cet enjeu-là, ben, il y a un moment où tu vas te dire, ben, faut que je m'appuie que sur, par exemple, du compute, parce qu'il y a une présence d'un, voilà, d'un cloud provider qui te fournit du compute ici. Tu dois éviter d'avoir 36 manières de déployer tes clusters. Du coup, tu essaies de faire converger tout ça. Donc justement, tu vas consommer que du compute et tu vas gérer toi-même ton control plane, son évolution, etc. Et tu vas, enfin, t'as tout intérêt justement à éviter les offres complètement managées. Moi, je te parle d'offres managées et je les vois très mal. Parce que typiquement, tu vas à Google, ils vont te proposer que du gVisor pour l'isolation. Quand tu choisis du gVisor, tu pars sur l'image, je crois que c'est l'image leur image COS Container D. Le problème, c'est que tu ne peux pas monter des volumes. Si tu fais du Ceph parce que tu as des besoins de faire du RWX dans ton cluster, parce que bon, on sait que ce qu'ils nous proposent pour du RWX, ce n'est pas très acceptable. Tu vas être obligé de monter un Ceph cluster. Typiquement, si tu as choisi d'avoir une sandbox gVisor, tu ne vas pas pouvoir avoir la libceph, tu vois, à dispo pour monter tes volumes. Tu es obligé de repasser par des wrappers, un FS Ganesha ou des choses comme ça. C'est, voilà, en fait, tu tords le truc dans tous les sens pour arriver à ce que tu veux. Typiquement, GKE, je te disais, ils permettent de faire du Cilium avec le Dataplane V2 et la configuration du Datapass, je crois qu'ils appellent ça. Et le problème, c'est que tu as monté un cluster, tu n'as aucun moyen d'activer ça à chaud. Tu es obligé de remonter un cluster entier, avoir travaillé ta capacité à migrer les workflows d'un cluster, tes workloads d'un cluster vers un autre. Tout ça, c'est hyper contraignant. Quand ils font le choix de faire de l'IP tables, tu vois, tu le prends et tu sais que la scalabilité, elle n'est pas linéaire. C'est beaucoup de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, tu as une vraie stratégie et tu dois sensibiliser la DSI pour leur dire, écoutez, par rapport à nos enjeux, on ne peut pas utiliser ça tel quel. Même si, par exemple, tu vas avoir GKE qui te propose l'auto-scaling des node pools, qui est vraiment super confort, du coup. L'auto-scaler, je crois qu'il est open source, donc peut-être qu'il y a un petit effort à faire, par exemple, pour pouvoir l'utiliser sur du compute. Et ça, c'est, voilà, je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à, tu vois, au niveau de travail qu'il faut arriver pour arriver à meet les expectations business. C'est vraiment du cas par cas. L'ambition de l'entreprise qu'elle veut faire, donc ses contraintes, versus ce que tu peux lui proposer en face de ses contraintes.
On le sent parce que tu dis il y a une grosse complexité qui s'est rajoutée aussi avec l'arrivée de Kubernetes. Mm-hmm. On a l'impression qu'il y a des strates. Alors, un sysadmin, habituellement, avait à gérer les aspects, le throughput, les I/O, mm-hmm. toutes ces métriques-là. On sait que aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait au point pour le debugging d'applications dans Kubernetes. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il en est aussi du monitoring un peu plus de l'infrastructure au travers de Kubernetes? Est-ce que tu arrives à avoir toutes les informations que tu souhaites? Quand tu as un problème, est-ce que tu arrives à facilement tirer la pelote de laine pour arriver jusqu'à ta solution, ou tu te rends compte que quelque chose qui te prenait 10 minutes avant, une heure avant, ça te prend peut-être une journée ou plus.
Mmh. Tu parles des outils pour débugger, est-ce qu'il y a du mieux?
Pas que les outils, en fait. Tu as parlé du réseau, par exemple. Mmh. Et avant, on avait un problème de réseau, on lançait un TCP dump, on voyait un peu ce qui se passait.
Oui.
C'est plus aussi simple aujourd'hui.
Non.
Et justement, cette perte de simplicité est pas forcément compensée par des outils, mais même si l'outil n'existe pas, t'es quand même obligé de débugger d'une certaine manière ta problématique réseau. Et donc, le temps que tu passes, ce qui était une tâche qui te prenait peut-être une heure avant et peut-être une tâche qui te prend 4 heures aujourd'hui.
Tout à fait.
Est-ce que tu arrives à le justifier correctement, ça?
Alors, c'est assez compliqué, mais c'est ce que tu dis, c'est que c'est vrai, c'est que les problèmes que tu avais avant, tu les as toujours, mais ils sont parfois un peu masqués. Alors, tu passes beaucoup de temps à essayer de trouver des parades pour arriver à avoir ce que tu veux. J'ai plusieurs exemples, hein. J'ai vu des saturations de tables ARP avec, justement, je te parlais de crawler et beaucoup de throughput. Et du coup, c'était sur l'IPVS où j'avais dépassé des seuils. Donc, débugger ça, c'est vraiment pas drôle. Je sais même plus comment j'ai réussi à le solutionner, mais En fait, tu y arrives toujours. Mais typiquement, dans GKE, il n'y a pas longtemps, j'ai fait du Cilium. En fait, j'ai remonté une issue upstream. Et cette issue est concernée. En fait, Cilium, c'est censé fonctionner, sauf que tu as le control plane en mode GKE privé qui est sur un subnet indépendant. Et en fait, tu avais des calls de webhook qui parvenaient jamais à aller jusqu'au pod. Donc, tu as toute l'admission qui était bloquée. Voilà, tu te retrouves avec ça. Sinon, tu as, comment dire, pour Cilium, tu vas avoir la partie load balancing qui aujourd'hui n'est pas fonctionnelle. Pas entièrement fonctionnel justement à cause de ça. Et typiquement j'ai un Cilium où j'ai été obligé de désactiver la partie load balancing, donc il va me faire que les network policies quoi, les network policies avancées Cilium. Ça typiquement il a fallu le débugger, il a fallu investir du temps. Souvent c'est plus difficile, pourquoi? Parce que alors tu peux avoir ça avec le, je crois qu'ils ont travaillé sur les éphémères all pod, c'est peut-être arrivé en 1.16 en version bêta, enfin en version, oui, ça devait être bêta. J'ai pas là pour le moment, tu vois, j'ai pas encore joué avec. Mais sinon, c'est vrai que c'est complexe. Parce que tu vas essayer de limiter ta surface d'attaque. Tu essaies de faire des conteneurs où t'es rootless, tu runs pas en route. Tu essaies de dropper le maximum de capabilities. En fait, c'est un petit peu une manière de travailler. C'est un peu de la sécurité, comment on peut dire. Enfin, tu travailles ton périmètre de sécurité et en général, tes points d'entrée-sortie, tu les travailles un peu plus que, voilà, que le reste. Et du coup, quand tu as un problème, tu te retrouves avec plus de binaires pour débugger, tu te retrouves avec plus rien, tu n'as plus accès à rien parce que tu t'es mis des policies pour te brider, pour attaquer par exemple un API serveur. Et c'est vrai que ça peut devenir très complexe, quoi.
Alors, il y a un aspect sur lequel je ne suis pas beaucoup revenu et que tu as mentionné tout au début. Mm-hmm. C'était la mesure, qui est quelque chose de très important au niveau d'un SRE, donc avec la définition des service level indicators et objectifs. Mm-hmm. Quand tu dois amener des changements, typiquement, on a parlé aussi beaucoup de sécurité,
oui.
Tu parles de G-Visor, comment tu mesures l'impact de l'ajout d'un composant par rapport à ce que tu attends comme objectif de métrique?
Alors, déjà, il faut être sûr de mesurer ce qu'on veut. Tu vois, c'est pour ça que je te disais... Tu dois définir les SLA avec ton business et aussi surtout tes SLO, tes objectifs. C'est-à-dire que si tu as vraiment un objectif de throughput ou un objectif de consommation de bande passante donnée, déjà tu dois t'imposer de le mesurer. Et tu dois, tu vas setter aussi des alertes sur les dépassements de budget. Donc typiquement, si ta BP de sortie elle est inférieure à ce que tu attendais, tu vas commencer à t'alerter, quoi, à te notifier pour le savoir. Donc la mise en place du composant doit trigger une alerte. Même si ce n'est pas une alerte type astreinte, c'est peut-être de l'alerte routing vers un outil donné, vers un canal donné qui te permet de suivre ça, quoi. Et ça peut être un dashboard, le dashboard de ta qualité, c'est-à-dire utilisation bande passante, utilisation... parce que, je te dis ça pour G-Visor, parce que je sais qu'en termes de perf IO, c'est pas glorieux. Ça s'est peut-être amélioré, mais de ce que je crois, non. donc du coup, faut le mesurer. Faut que tu sois sûr que si tu as un node exporteur, tu as bien mis tout ce qu'il faut pour voir tout ça. Et ouais, c'est un travail à faire. Donc si tu mets du G-Visor, de toute façon, vu sa réputation, tu vas vraiment t'intéresser aux entrées-sorties et la performance des entrées-sorties. Donc tu dois t'assurer que tu as mis tout en œuvre pour le mesurer, quoi. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce que parfois on est perdu dans les métriques. Quand tu mesures tout, parfois lors d'un incident, tu vas découvrir des choses et tu vas te dire là j'avais un trou dans la raquette. Et ça, c'est ce que j'appellerais de l'amélioration continue, quoi. C'est-à-dire que suite à l'incident, tu fais ton RFO, tu fais ton plan d'action, tu dis comment ça va plus se reproduire et tu prévois aussi d'ajouter ça dans ton système d'alerting.
On a parlé d'amélioration des composants. Par exemple, on pourrait, pour des raisons de sécurité, vouloir un composant de type G-Visor. Mm-hmm. Pour le réseau, on va peut-être remplacer un CNI par un autre. Mm-hmm. Quand tu testes ces différents composants, t'as pas l'échelle en général, ou pas forcément l'échelle que tu souhaites. T'as mentionné par exemple que un composant qui va utiliser IP table, enfin un composant réseau qui utilise IP table, aura pas la scalabilité d'un composant qui utilise le BPF, par exemple. Mais donc, comment t'arrives à bien te rendre compte et avoir une mesure qui soit précise de l'impact que tu peux avoir en introduisant un nouveau composant si t'es pas en mesure de tester à l'échelle souhaitée? Ou plutôt, c'est comment toi tu vas faire en sorte que tu arrives à l'échelle souhaitée pour faire tes tests?
La réponse que je t'apporterai sur ce sujet, ça va être de vraiment travailler des bancs de tests, c'est-à-dire du benchmark. Typiquement, tu vois, en termes de réseau, tu as fait des choix. Je l'ai vu par exemple avec OVH, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir quand même faire des tests high perf, des choses comme ça, tu vois, pour garantir que tu atteins tes objectifs. Et c'est pareil en fait en termes de, tu vois, en termes d'infra, tu vas pouvoir vérifier tout ça avec du stress test, tu vois, avec du Zoom, du Funkload. J'aime bien aussi, tu vois, définir c'est qui tes utilisateurs. Souvent, on parle de personas sur le web, c'est tel gens avec telle intention, voilà. Tu les qualifies, tu sais c'est qui, tu sais à peu près, tu t'intéresses à ce qu'ils font. Comment tu t'y intéresses? Tu as Google Analytics, par exemple, qui te permet de voir un peu c'est quoi le comportement de tes users, ce qui va te permettre de faire des plans fonctionnels de, voilà, c'est quoi un parcours typique d'un utilisateur. Après, tu peux le capturer avec du Selenium ou ce que tu veux. Voilà. Et ensuite, tu joues ça, je te parlais de Funkload, mais tu joues ça avec des injecteurs de charge que tu peux répartir, voilà, parce que tu sais que si tu les répartis pas, voilà, tu vas arriver au bottleneck d'un seul injecteur. Tu peux assertir tout ça grâce à ça. Donc vraiment investir, industrialiser ton système de test pour soit mesurer ton amélioration continue. Donc j'ai ajouté tel composant, il est plus performant que l'autre. Après, en termes d'analyse, ça peut être pusher un label. Tu peux le faire en AB, tu vois, en test AB, c'est-à-dire que tu as des stratégies comme ça où tu vas orienter un échantillon de ta population vers une stack. Ça m'est arrivé, par exemple, en montant une ferme de cache, je devais remplacer une ferme de cache Apache Traffic Server. Et il fallait que, du coup, j'avais monté une stack shardée avec du Nginx. Et typiquement, je voulais mesurer que ça... Déjà, je voulais un peu la chauffer, cette stack. Et je voulais mesurer que je n'avais pas de perte. Donc, j'ai mis tous les indicateurs pour mesurer que j'arrivais au même, au même hit rate que l'ancienne, voire un meilleur hit rate. Même si, en fait, le remplacement du composant, c'était plus justifié parce qu'on perdait, quand on perdait un élément du cluster Apache Traffic Server, on allait se throttler en sortie vers les calls, vers les API Google. Donc, c'était ça l'objectif, mais je voulais mesurer que la latence des calls était la même. Et typiquement, j'ai mis toutes les métriques pour aller dans ce sens-là. Et pour pouvoir forquer un peu le trafic, pour le coup, tu vois, j'avais utilisé un projet qui s'appelait Go Replay. Et du coup, tous les calls étaient forqués pour aller taper dessus, pour à la fois chauffer et en même temps, alors en plus, le composant, en fait, il se chauffait sur l'autre stack pour éviter justement de se throttler toute l'infra de prod. Mais tu vois, c'est ce genre de scénario où il faut agir un peu en bonne intelligence. Après, t'as forcément tu vas avoir des reverse proxy qui te permettent de le faire avec ces features built-in. Pouvoir faire de l'AB ou du multivariate sur ta prod, échantillonner une partie de ta production pour assertir que justement sur tes métriques, par exemple, tu remontes exactement les mêmes métriques de chaque côté sur l'ancienne stack versus la nouvelle. Par exemple, tu peux labelliser le fait que c'est sur telle ou telle plateforme, ce qui va te permettre de comparer sur tes dashs, en fait, la source en fait de ce que tu as.
Alors, une dernière question. On a vu, c'est un environnement qui, alors, aussi bien évolue vite, mais en plus très complexe. Mm-hmm. Et tes tâches sont très variées. Quelle part de ton travail est consacrée à la veille techno? Parce que j'imagine que tout ça, tu le sors pas de ton chapeau. Et que tu dois en permanence te tenir informé un peu de ce qui se fait. Peut-être des erreurs qui sont rencontrées. Peut-être des horror stories, comme on dit.
Mm-hmm. Oui.
Alors, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton travail aujourd'hui ou c'est quelque chose que tu fais à côté?
Alors là, vu la taille de l'équipe actuelle et les enjeux versus... c'est compliqué en fait de dégager sur le temps de travail ce temps de veille. Donc en général, c'est souvent sur le temps personnel, c'est vrai. ça va être le soir, voilà. C'est du, mais ça reste du temps investi parce que, enfin, moi, j'ai tendance à penser, tu vois, ça c'est, voilà, ça c'est un feeling personnel, c'est que on travaille aussi notre employabilité sur le long terme. Tout ce qu'on fait, on le fait pas que pour une entreprise. C'est vrai qu'on le fait pour nous et aussi parce qu'on est passionné, bien sûr, ça compte aussi. Mais ce travail d'employabilité, bah, c'est voilà, faut qu'on se maintienne pour garantir notre pérennité et ça passe par cette veille. Voilà, parce qu'on reste dans un, voilà, on reste dans un contexte où c'est un contexte concurrentiel et si on veut à la fois et les meilleurs postes et les meilleures aventures, il faut qu'on soit compétitif, voilà.
Ok, Tony, c'était une conversation super cool, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à bientôt.
À bientôt.
Retrouvez Tony sur Twitter, @itoxicity et prévision.io sur prévision.io. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-le autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts pour lui donner plus de visibilité. À bientôt !